On continue la série « Les ministères de base pour tous les chrétiens ». Parce qu'on n'est pas encore rendu à voir les ministères comme les ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, puis voir les ministères dans l'Église, puis les différentes façons qu'on peut servir Dieu. On va le voir un petit peu plus tard. Ça, c'est à un second degré. Avant d'arriver à ce degré-là, il faut connaître les ministères de base que Dieu s'attend pour tous les chrétiens. J'ai des ministères à vivre dans ma vie. Vous avez des ministères. Quand que je parle du mot ministère, savez-vous ce que ça veut dire, ministère? Service. Quels sont les services que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Dieu m'a appelé à son service. Donc, il m'a appelé à son ministère. J'ai des responsabilités. Il s'attend à un mode de vie. Il s'attend à quelque chose. On a déjà vu plusieurs points. Puis toutes les autres études, on peut aller les retrouver dans le site internet publicationtraditionevangélique.com. Dans ce site-là, dans la section « L'appel au ministère », il y a déjà 6-7 prêches de ce sujet-là. Aujourd'hui, le rôle, puis comme un ministère de base pour tous les chrétiens qui sont dans la vie séculière, dans la vie de tous les jours, là. Le sujet qu'on va voir ce soir, c'est le rôle et la responsabilité d'un employeur et d'un employé. Il y en a qui vont trouver ça bizarre. Comment ça se fait que Dieu parle dans la Bible au niveau d'employeur et d'employé? Est-ce que Dieu se soucie? Non, je dirais pas souci. Est-ce que Dieu a un appel sur la vie des riches, des chrétiens qui sont riches? Est-ce que Dieu a un appel sur les chrétiens qui sont plus pauvres, mais qui travaillent pour les riches? Est-ce que Dieu a donné des directives, un mode de vie pour les riches, puis un mode de vie pour les pauvres? Puis que quand tu es fidèle dans ce que Dieu t'a appelé, en tant que ministère de riche ou ministère de pauvre, tu sers Dieu malgré que tu es pauvre ou tu sers Dieu malgré que tu es riche. Mais dans les deux cas, on est en train de servir Dieu dans la position que Dieu nous a appelé à être. On est appelé à servir Dieu dans la position que Dieu nous a appelé. Si tu es riche, tu es appelé à travailler pour Dieu dans ta richesse. Si tu es pauvre, tu es appelé à travailler pour Dieu dans ta pauvreté. Mais il y a des versets dans la Bible qui parlent pour les riches puis pour les pauvres, pour les employeurs puis les employés. Puis quand tu commences à mettre en pratique ces versets-là, ça porte du fruit pour la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on travaille. C'est un ministère pour tous les chrétiens. Il dit dans Éphésiens 4:28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Fait que veut pas, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu nous appelle à travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire, on est tous, veut pas, en train de servir Dieu dans le travail, puis ça a le but de donner à notre prochain, à ceux qui ont besoin. Peu importe si tu es riche ou pauvre, on est tous en mesure d'être capable de travailler, puis de produire quelque chose qui va faire qu'on peut enrichir quelqu'un d'autre. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. C'est un service pour Dieu, c'est un ministère pour Dieu. Puis Dieu nous demande d'être fidèles là-dedans. Si on dit, oh, mais moi, j'aime bien les pauvres, mais je vais les aider, mais que je gagne à la loterie. Dieu te demande pas d'attendre à gagner à la loterie pour commencer à aider les pauvres ou aider les autres qui sont autour de toi. Tu peux déjà être en train d'aider, même si, peu importe dans l'état où tu es. Tu es peut-être malade, pas capable d'aller travailler. Ça se peut. À ce moment-là, tu peux peut-être faire d'autres choses, peut-être tricoter. Tricote une paire de chaussettes pour quelqu'un qui n'a de besoin. Tu sais? Peu importe, à moins que tu sois plus capable de bouger pantoute, là, c'est une autre affaire. Mais on est tous capables de faire des choses. Il s'agit de trouver ce que Dieu nous a appelé, puis si on ne l'a pas encore trouvé, puis de commencer à faire de quoi, puis de faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu, il a une vision du plan pour les riches. comme il y a une vision là pour le plan de vie, le plan de match pour un pauvre. Dieu, il y a une vision, puis il y a une manière, un mode de vie d'écrit dans la parole de Dieu pour les riches. Voulez-vous le savoir?
Oui.
C'est intéressant. Mm-hmm. Dieu en parle parce que c'est important. Les riches, ils se pensent peut-être bien à l'aise, puis vu qu'ils ont bien de l'argent, ils se pensent comme si tout leur appartient. Puis est-ce que Dieu aurait un mot à dire sur leur mode de vie? Oui. Dieu a de quoi dire aux riches, puis il a de quoi dire aux pauvres. On va commencer avec les riches. 1 Timothée 6, le verset 17. Recommande aux riches, que ça nous dit dans ce verset-là. Paul est en train de parler à Timothée, puis il dit là, je te dis quelque chose, là, qu'il faut que tu dises ça aux riches. Recommande aux riches. Parle aux riches. Ils ont besoin d'entendre ce que tu vas dire là. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Oh! Ça se peut-tu que des fois, quand on a acquis bien des richesses, qu'on a bien du pouvoir, bien de la capacité d'achat, du pouvoir d'achat, on est capable de se payer tout ce qu'on veut, puis on a du monde qui travaille à notre service, puis que là, on commence à développer de l'orgueil. Ça se peut-tu, ça?
Quelle sorte d'orgueil, tu veux-tu?
Que ça leur monte à la tête, puis là, les gens se pensent plus importants, ils se pensent supérieurs à cause qu'ils ont des richesses. Il y a souvent, ça arrive. Ça peut arriver qu'une personne soit ordinaire, comme toutes les autres, puis elle ne cherche pas à se vanter, puis à se montrer, puis à regarder qu'est-ce que j'ai, puis j'ai acquis ci, puis j'ai acquis ça, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Elle est toujours en train de se comparer avec les autres. Ça, c'est de l'orgueil. Puis de se penser supérieur à l'Église comme « j'ai le droit à la meilleure place à l'Église, c'est moi qui donne le plus dans le tronc ». Tu sais, toutes les choses qui peuvent lui monter dans le cœur. Mais c'est pas de Dieu. Dieu veut pas. Dieu pour Dieu, là, tout le monde sont égales. Que tu sois un riche, que tu sois un pauvre, tu es égal aux autres. Puis tu n'as pas plus droit à des traitements supérieurs parce que tu es riche. Faut pas que ça nous monte à la tête d'être riche. Là, ça dit, recommande aux riches de ne pas être orgueilleux et, parce qu'il y a d'autres points qui ont besoin d'être enseignés, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mm-hmm. Mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Là, il lui dit, là, c'est beau que vous avez beaucoup d'argent, vous avez un gros compte de banque, vous avez beaucoup de biens. Mettez pas votre confiance dans les biens matériels, puis dans cet argent-là que vous avez dans votre compte de banque. Apprenez à mettre votre confiance en Dieu.
Amen.
Parce que c'est Dieu qui peut vous secourir quand ça va, s'il arrive une catastrophe, puis que toute l'économie tombe. C'est pas votre argent qui va nous sortir de là.
Ou si t'as un enfant qui fait un suicide,
whatever. Oui, c'est ça.
C'est pas ton argent qui va te sauver.
Il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie que c'est pas notre argent qui va nous en sortir. Tomber d'une maladie qui est incurable ou des choses semblables. Il y a toujours des choses qu'il faut que tu apprennes à mettre ta confiance en Dieu. Le pauvre, il n'a pas le choix. Lui, il n'a pas d'autres ressources. Il s'accroche à Dieu. Il n'y aura pas nécessairement ce problème-là. Mais quelqu'un qui n'a de l'abondance, il y a un danger. Fais attention, viens pas orgueilleux, puis mets pas ta confiance dans tes richesses. Apprends à mettre ta confiance en Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, demande-le à Dieu. Fais comme si tu dépends de Dieu, puis Dieu va toujours te bénir, puis te donner ce que tu as besoin. Là, on continue dans le verset 18, dans le même verset, il dit, recommande-leur, il leur dit encore à Timothée, recommande-leur, dis-leur encore aussi cela. Les riches ont besoin d'apprendre à écouter ce que Dieu donne dans sa parole. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Parce que tu peux être riche puis gratteux. Tu peux être riche et pauvre en bonne œuvre. Tu peux être riche, avoir bien les moyens d'être capable d'aider plein de monde puis de pas aider personne. Parce qu'on est gratteux, on est radin, on est séraphin. On est avare, on est comme on bâtit notre sécurité avec nos biens puis nos richesses, puis on pense que si on donne, qu'on s'appauvrit, puis que là, on voit pas qu'on, quand on donne, on est en train de s'enrichir. On est en train de regarder nos richesses selon la manière que les gens du monde qui connaissent pas Dieu regardent leurs richesses. Dieu veut nous apprendre que si on tombe à être riche, faut être capable d'être riche en bonheur, être capable de faire des œuvres, des bonnes actions, être généreux, donner, puis d'aider les ceux qui nous entourent. Dieu a pas donné l'argent aux riches pour qu'ils se paissent eux-mêmes. Parce que quand tu es chrétien, ta vie appartient à Dieu. Ton temps de ta vie appartient à Dieu. Ta femme appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Ton argent appartient à Dieu. Ta job, ton travail, tes commerces appartiennent à Dieu. Tout ce que tu as est à Dieu. Tes biens, ton char, ta maison, tout est à Dieu. Tu t'es donné à Dieu. T'appartiens à Dieu. Donc, tout ce que tu as, c'est à Dieu. Faut que tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec cette richesse-là. Parce que t'es dans un ministère pour Dieu. Dieu a permis que t'aies de l'abondance, que t'aies des richesses, dans le but de servir Dieu avec ces richesses-là. Faire avancer l'œuvre de Dieu. De t'investir pour faire avancer le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas juste aux pauvres, comme il y a un autre verset qui dit, cherche premièrement le royaume et la justice, et toutes les choses vont être données, comme le vêtement et la nourriture.
C'est vrai aussi.
Les pauvres, ils le font. Mais le riche aussi doit chercher le royaume et la justice, puis que Dieu va pourvoir à ses besoins aux riches, mais dans recherchant le royaume et la justice, ta richesse va être mise au service de Dieu, puis tu vas pouvoir aider les pauvres qui sont autour de toi dans ton église.
Peux-tu expliquer plus qu'est-ce que ça veut dire la justice?
Tout ce qui est juste devant Dieu, tout ce qui sont les œuvres justes des saints, tout ce qui est juste, c'est ce que Dieu dit, c'est juste. Fait que quand tu veux chercher le royaume, tu cherches les choses du royaume et sa justice, ça veut dire dans le royaume de Dieu, il y a un certain mode de vie qui doit être conforme à la justice de Dieu. C'est que Dieu a donné ses règles, ses lois, ce qui est juste de pratiquer, ce qui est juste de faire, puis nous devons, en tant que chrétiens, rechercher son royaume et rechercher à être juste, rechercher à vivre d'une manière juste devant Dieu.
Une manière sainte,
une manière qui marche dans l'obéissance à sa parole, c'est de rechercher la justice. C'est autant pour les pauvres que pour les riches. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité puis de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Tu veux saisir la vie véritable? La vie véritable, c'est la vie chrétienne. Tu veux vivre la vie chrétienne? Travaille, sois généreux. Sois libéral, donne ce que tu as, enrichis les autres avec ce que tu as, puis les autres, quand ils vont recevoir, ils vont être bénis de Dieu, puis que Dieu, par la suite, il va te bénir dans des richesses éternelles. Parce que Jésus le dit, « Amassez-vous pas des trésors sur la terre, où ce que la teigne et la rouille détruisent, et où ce que les voleurs percent des robes. Amassez-vous des trésors dans les cieux, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, et où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Fait que si notre trésor est dans les cieux, notre richesse, on va réaliser qu'elle est au service de Dieu, puis que là on donne dans l'œuvre, on fait avancer l'œuvre de Dieu. Puis là, de même, on se ramasse des récompenses pour dans l'éternité, quand on va arriver dans la vraie vie. Amen. Les riches ne doivent jamais oublier qu'eux aussi, ils ont un maître dans les cieux, à qui nous devons un jour rendre compte. Colossiens 4:1, ça dit, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. » Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les cieux. Ceux qui sont riches, puis qui sont des maîtres sur leurs serviteurs, qui sont les employeurs, les autres, c'est les employés,
Là, il lui dit, t'es riche, correct, mais accorde à ceux qui travaillent pour toi, là, accorde ce qui est juste et équitable. Parce qu'il y en a des riches qui sous-payent leurs employés. Ils les exploitent. Puis là, les ouvriers crient. Puis Dieu, il entend les cris de ces ouvriers-là qui sont mal payés. Puis Dieu va faire rendre compte aux riches leur mauvais traitement qu'ils ont fait subir à leurs employés. Il y a un verset qu'il dit dans la parole qui dit « Malheur à vous, riches, puis vous avez amassé des richesses pendant les jours de puis tout ça, puis en sous-traitant les employés qui ont crié, puis que l'Éternel a entendu les cris de ceux qui criaient, puis Dieu va faire rendre justice à ça. Dieu s'attend à ce que les riches donnent ce qui est juste et équitable. Puis qui n'oublie pas que eux autres, ils sont peut-être maîtres sur des gens aujourd'hui, mais qui n'oublie pas qu'ils ont un maître eux aussi dans les cieux. Puis le Seigneur Jésus va faire rendre compte à chacun, sans exception de personne. Il y a d'autres versets qui nous parlent sur les riches, sur la manière que les riches ils doivent se comporter. 1 Timothée chapitre 6, le verset 3. Là, dans ce passage-là, il est en train de nous parler que c'est important, quand on est chrétien, de vivre dans la piété. La piété, là, c'est quand tu marches dans la piété, c'est que tu vas être une personne qui va aimer Dieu, qui va aimer prier Dieu, qui va prier Dieu, mais qui va louer Dieu, qui va prier Dieu, qui va donner des sacrifices à Dieu, qui va faire des choses pour Dieu, qui va vouloir vivre sa vie pour Dieu. Ça, c'est une vie de piété. Puis, quand tu es chrétien, que tu sois riche, que tu sois pauvre, nous devons apprendre à vivre dans la piété, à être des personnes pieuses, des personnes qui prient, qui louent le Seigneur, qui vont à l'église, qui cherchent à vivre pour Dieu. Là, le passage que je vais vous lire, ça parle de la piété, mais après ça, ça parle d'acquérir des richesses, puis d'un piège qui est là-dedans, sur l'idée de chercher toujours à acquérir d'autres richesses. Il y a un piège là-dedans. Dans 1 Timothée 6, le verset 3, ça nous dit, « Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, puis ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, puis il sait rien. » Ça veut dire que toute personne, quand il prêche la parole de Dieu, doit chercher à vivre un mode de vie qui est conforme à la piété. Puis si on a un mode de vie qui n'est pas conforme à la piété, si on n'est pas intéressé à vivre comme d'une manière pieuse, d'une manière de prier, de louer Dieu, de chercher à vivre pour Dieu, puis d'adorer Dieu, puis de servir Dieu, si on n'a pas cette idée-là, on sait rien, on connaît pas Dieu, on connaît pas sa parole. Ça nous dit qu'on est enflé d'un vain orgueil, on sait rien. On est prêt à s'estiner, puis voir des chicanes, tout ça. Dans son explication, Paul est en train de dire qu'il est important de vivre selon la piété. Puis là, il dit qu'il y a des gens qui vont croire que la piété est une grande source de gain. Puis là, ils vont commencer à dire, « Oh, c'est en effet une grande source de gain que la piété, mais avec du contentement. » Paul est en train de dire que c'est vrai que c'est une source de gain. Ta vie va s'en aller en grandissant, en s'améliorant, parce que tu sers Dieu, Dieu va t'aider dans ta vie, puis Dieu va te bénir. Mais il faut que tu aies du contentement. Puis il y en a qui vont chercher toujours à acquérir, puis acquérir encore plus, puis acquérir encore plus parce qu'ils pensent que le fait d'être pieux, ça va t'amener à être super riche. Ça me fait penser à l'évangile de prospérité, qui est une fausse évangile. Dieu n'a jamais dit que tous les chrétiens sur la terre seraient riches. C'est une fausseté. Mais il y a des gens qui disent ça à d'autres, puis là, il y en a qui passent leur vie à essayer d'acquérir les richesses, puis de penser qu'il faut absolument atteindre d'être riche, comme si ça serait un but. C'est pas un but d'être riche. C'est vrai qu'il y a une grande source de gain quand tu marches dans la piété, mais il faut que tu aies du contentement. Savez-vous c'est quoi du contentement? De se contenter. À un moment donné, il faut que tu sois satisfait de ce que t'as. Si tu te contentes de ce que t'as, si t'as le vêtement, la nourriture, t'as un toit sur la tête, t'as des choses de base, faut pas que tu sois comme d'une maladie à vouloir accumuler, pas accumuler, pas accumuler. C'est sûr, faut que tu travailles, ça, y a rien contre ça de travailler. C'est le point d'avoir une fixation sur l'accumulation. C'est ça qui est un péché. Quand Jésus dit, vous pouvez pas servir Dieu ou Mammon. Vous pouvez pas être à la poursuite des richesses, puis penser qu'il faut que tu acquières les richesses, puis être aussi à la poursuite du royaume de Dieu. Tu peux pas courir sur un bord et sur l'autre. Faut que tu sois contente de ce que tu as. Puis tu me pries Dieu, tu cherches Dieu, la face de Dieu, tu sers Dieu, puis tu es généreux avec ce que tu as, puis Dieu va te bénir dans ce que tu as, mais aide du contentement. Faut que tu te contentes de ce que tu as. On n'a rien emporté dans ce monde, puis il est évident qu'on peut pas rien emporter quand on va mourir. Si donc on a le vêtement puis la nourriture, cela nous vous suffira. Pour Paul, le contentement, c'est vêtement, nourriture, c'est déjà suffisant. On est loin de ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les biens ils s'accumulent dans la maison. Même plus de place pour rien mettre tellement qu'on pense toujours à accumuler, puis à dépenser, puis de s'enrichir, puis de mettre le luxe. Mon cours après ça, on dirait que on pense que ça fait partie de la vie normale. Mais il y a un danger dans ça. Parce que si tu tombes, tu peux vivre avec des biens sans courir après ça, sans penser que c'est ton but. Ça dit dans ce verset-là, ceux qui veulent s'enrichir, qui pensent rien qu'à s'enrichir, puis à s'enrichir, puis ont une fixation là-dessus, là, mais ils tombent dans la tentation, ils tombent dans le piège, puis dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine puis dans la perdition. C'est fort. Ça dit que des gens qui vont courir après la poursuite des richesses au lieu de poursuivre le royaume de Dieu et sa justice. Même s'ils sont chrétiens, leur richesse puis leur bien n'est pas suffisant, puis il faut toujours qu'ils pensent « j'en veux plus, puis j'en veux plus ». Mais ça, là, c'est un piège puis une tentation, puis ça plonge le monde dans la ruine, puis dans la perdition, que c'est pas le dit. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux, puis quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Il dit que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux, puis s'il y en a quelques-uns qui sont possédés de ça, de l'amour de l'argent, là, mais ils s'égarent loin de la foi. Ça devient comme un combat dans ton âme, puis tu t'en rends même pas compte. T'es tellement à la poursuite des richesses puis des biens que là, ton cœur est plus à vouloir la piété, de vouloir prier, de vouloir demeurer dans la présence de Dieu, puis de vouloir être en communion avec tes frères et sœurs, de vouloir être à l'église, de vouloir, tu sais, profiter des bons moments qu'on a dans la présence de Dieu. Le gars, il dit, oh, j'ai pas le temps, faut que j'ai un bon rendez-vous d'affaires, j'ai des contrats à les signer, puis le gars, on va pas à sa réunion à l'église, il prie pas à chaque jour, puis il cherche pas à la face de Dieu, puis il loue pas le Seigneur, puis il pense que sa vie spirituelle va marcher tout seul. Il dit ceux qui sont en amour avec l'argent, puis ils poursuivent tout ça, là, mais ils s'égarent, puis ils s'en vont à la perdition, puis ils s'éloignent de la foi. Parce que la foi, hein, c'est pas juste d'une connaissance intellectuelle que je sais que Jésus est mort sur la croix. Non. La foi, c'est un mode de vie. Tu marches par la foi. Tu nourris ta foi. Tu marches dans la piété, en communion avec Dieu, c'est là que tu portes du fruit. Sans cette communion-là, tu ne peux rien faire qui plaît à Dieu. Fait que si Dieu t'a confié des richesses, c'est pas pour être dans une passion sans frein à poursuivre, à avoir encore plus de richesses. Non, cherche le royaume avec ta richesse. Investis dans le royaume de Dieu. Porte du fruit pour le royaume de Dieu. demeure dans la piété, dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans la louange, dans l'Église. L'argent va rentrer pareil, puis bénis Dieu, bénis les frères et sœurs, sois généreux de la bienfaisance puis de la libéralité que ça nous enseigne d'avoir. Puis ça dit au verset 11 de ce verset-là, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Fuyons l'idée de vouloir s'enrichir puis d'être en amour avec l'argent. Faut fuir ça parce que c'est l'ennemi du chrétien. Un chrétien qui est riche, il est en danger si son cœur est dans sa richesse puis dans le désir d'en faire encore plus. Qu'il apprenne à devenir généreux puis à donner, puis à se ramasser des fruits pour la vie éternelle. Amen. Pour ce soir, j'avais resté à ce point-là. La semaine prochaine, on verra la suite. Quelle est la partie d'un mode de vie d'un employé face à son employeur? Là, on vient de voir la partie de ceux qui sont riches puis qui sont employeurs. Quel genre de mode de vie qui peut plaire à Dieu puis qui va grandir puis être prolifique, comme on dirait, avoir beaucoup de fruits dans sa vie? C'est de s'enligner dans ce qui est la recherche des choses de Dieu, puis d'être généreux avec ses richesses. Parce que si tu es riche, c'est un ministère que Dieu t'a appelé d'être riche pour soutenir le royaume de Dieu.
Exact.
Ta richesse n'est pas pour toi-même. Ta richesse est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je peux vous dire que je connais des dizaines, je veux pas exagérer, je dirais pas des centaines ou des milliers, mais je sais que si je pose la question à d'autres chrétiens, que ça va être facile d'arriver qu'on connaît des centaines de ministères qui ont besoin d'argent puis ont de la misère d'avancer dans l'œuvre parce qu'il leur manque d'argent. Faut que les riches apprennent à soutenir les ministères. Il y a plein de ministères de pasteurs, d'évangélistes, des missionnaires, des gens qui veulent implanter des églises, ceux qui prêchent à la radio, qui prêchent à la télévision, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de fonds pour faire avancer l'œuvre, puis ça prend que les riches, ceux qui ont de l'argent, que Dieu a permis qu'il y ait des richesses dans eux-mêmes, c'est dans le but de faire avancer les ministères, de faire avancer l'œuvre de Dieu et de soutenir les faibles dans l'Église afin qu'il y ait une règle d'égalité. Ça, je ne l'ai pas lu. Ah oui, ça fait partie de ce verset-là. Je le lis justement pour les riches. Je vais finir le thème des riches avec ce verset-là. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 13, qui dit, « Car quand tu te mets à donner dans l'œuvre, là, il dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Faut pas que tu donnes tout ce que tu as pour que tu deviennes toi-même un pauvre, là. C'est pas ça qui est le but. Mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Après ça, ça va être leur superflu qui pourvoira pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Les riches doivent apprendre que leur superflu doit être pour aider ceux qui sont dans le besoin. Puis un jour, ceux qui sont dans le besoin, qui n'auront en superflu, pourront aider les autres qui sont dans le besoin, afin qu'on ait une règle d'égalité dans l'Église. C'est ça qui est le but que la parole de Dieu nous enseigne. Les riches doivent apprendre à être généreux et à aider ceux qui n'ont besoin. Puis selon ce qui est écrit, celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, puis celui qui avait amassé peu n'en manquait pas. C'est un verset de la Bible. Dieu veut qu'on apprenne que dans l'Église, c'est les riches qui doivent compenser à ceux qui n'ont pas gros, pour qu'il y ait une règle d'égalité et que tout le monde soit béni au bout. Amen. Prions. Père, on vient de prier dans le nom de ton Fils Jésus pour te remercier, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne comment est-ce que c'est important d'être généreux dans ton œuvre. Comme Paul l'a dit, qui a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. On a tous passé par là, Seigneur, des moments d'abondance puis des moments de disette. Apprends-nous à vivre conformément à ta parole, Seigneur, puis à pas tomber comme lié par l'argent, puis la poursuite de l'argent, puis être aveuglé par ça, puis s'en aller à perdition parce qu'on sera à la recherche juste de l'argent, plutôt que d'être dans la recherche de la piété, puis de la communion avec ton esprit, puis à marcher selon ta parole. Donne-nous de rester ferme à obéir à ta parole, puis à la mettre en pratique. Puis qu'on remette au ventre tes mains, Seigneur, pour que tu nous guides dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.